Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Dans nos chroniques des livres et essais, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Le chant des profondeurs », édité aux éditions Salvator, sous la direction de Nathalie Nabert et avec une préface de Sylvie Germain. Alors c'est un coup de cœur d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a intéressé pour plusieurs raisons. La première, c'est pour tous ceux comme moi qui ont vu ce film de Groening qui s'appelle Le Grand Silence et qui était un reportage sur les chartreux et donc cette spiritualité chartreuse à la fois mystérieuse et intrigante. Et tous ceux donc qui ont été sensibles à ce film-là, il y a des prolongements tout à fait passionnants dans Le Chant des Profondeurs et des éléments qui permettront de mieux comprendre cette vie passée seule comme ça. À la Grande Chartreuse, en contemplation directe avec Dieu. Et deuxièmement, pour tous ceux que la spiritualité intrigue d'une manière ou d'une autre, ce livre est tout à fait passionnant. Alors, quel est son sujet? Quel est son objet? De quoi parle-t-il? Comment imaginer cette rencontre mystérieuse entre un individu et Dieu? Alors, de quel Dieu parlons-nous? Soit nous parlons d'un Dieu théologique, soit nous parlons d'un Dieu de la parole, ce Dieu de l'intimité, plus intime que mon intimité, dit saint Augustin. Et donc, pour réussir ce dialogue, pour réussir cette compréhension, cette appréhension, Nathalie Nabert, qui est une spécialiste du monachisme et des chartreux en particulier, a réuni autour d'elle un certain nombre de spécialistes, chacun pour leur confession propre, de cette rencontre, de cette intimité, d'où ce livre pluriconfessionnel qui met l'accent sous des aspects différents ou sous des confessions différentes ou sous des religions entre guillemets différentes, qui met donc l'accent sur cette rencontre secrète, ô combien mystérieuse, souvent ineffable, qui est nouée au tréfonds de l'intimité entre un individu et puis cette présence, qu'est Dieu. Voilà. Alors quand je dis Dieu, je devrais plutôt dire son, entre guillemets, Dieu. Le Dieu des Juifs, le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants, le Dieu des musulmans. Alors, pourquoi est-ce que je décline? Parce que donc chacun des auteurs, le décline dans sa propre confession. Michel Le Play, lui, le fait pour les protestants. Michel Le Play est un pasteur, et donc il indique ce qu'il en est pour les protestants. André Louf, lui, qui est un moine, qui a dirigé en Calcate pendant des années, le fait pour les catholiques. Claude Vigée, pour les juifs. Boris Boris Bobrinskoy, pour les orthodoxes, et Larbi Kesha pour les musulmans. Alors on pourrait croire que chacun intervient et d'une certaine façon plaide pour sa chapelle, ou pour son église. Pas du tout. Chacun des contributeurs, se situant au niveau de la spiritualité, de cette rencontre ineffable avec Dieu, chacun évoque ce chant des profondeurs, donc le titre de l'ouvrage, cette révélation de l'homme intérieur, cette révélation de cette demeure intime au-dedans de nous-mêmes, de cette rencontre singulière, de cette façon de sortir de soi qui dépasse ou qui va au-delà ou qui va en deçà, je ne sais pas très bien, des théologies confessionnelles. Et Nathalie Nabert précise bien, et elle cite le grand théologien orthodoxe Olivier Clément, que, je cite, « Dieu s'efface tout en multipliant discrètement ses témoignages d'amour. » Et que ce même Dieu, quel qu'il soit d'une certaine façon, quelle que soit son étiquette ou quelle que soit sa confession théologique, que donc Dieu devient un mendiant d'amour qui attend à la porte de la création et à la porte de notre cœur. Et Nathalie Naber cite un autre auteur, lui protestant, Colette Kessler, qui précise que « en se donnant, Dieu, à l'opposé des idoles, se retire de toute captation ». Je crois que l'idée essentielle, enfin le point de convergence entre tous les auteurs, c'est effectivement cette idée d'une absence de captation. Nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu. Dieu se donne par la parole, il se donne dans cette rencontre d'intimité, quels que soient les éléments confessionnels des uns et des autres. Et donc cette absence de captation nous met là au cœur de cette rencontre de l'homme avec la parole d'intimité qui se révèle en même temps qu'elle révèle l'individu qui contemple, qui écoute, qui se met à l'écoute de cette même parole. Nous sommes là au cœur de ce que André Louf évoque quand il parle de la maison intérieure. Et Claude Vigée, du côté juif, indique clairement que dans la tradition juive, la lumière divine cherche le vase humain où elle peut être reçue, être en harmonie avec un individu. Il y a comme une quête de la lumière avec ce vase individuel qui permet d'être révélé. Voilà. Une forme de révélation qui est attendue par Dieu. Alors, il y a là quelque chose qui nous fait mieux comprendre que la lumière divine, dans la tradition juive, mais aussi dans les autres traditions, la lumière divine, Dieu, la parole, enfin, est toujours prête à agir dans le silence et dans l'obscurité du commencement, et qu'elle cherche toujours ce réceptacle humain qui puisse la contenir et la laisser s'épanouir. Michel Leplay, dans l'article ou dans le chapitre qui le concerne, pasteur de son état donc, et qui est un ancien membre du groupe des Dombes, donc un groupe œcuménique, indique que pour lui, la spiritualité protestante ne pratique finalement que très peu le silence, du moins en public, mais qu'elle fait une place beaucoup plus importante à la musique. Alors la musique, c'est la musique de Bach, mais c'est aussi la musique des mots. Et Michel Leplay cite cette prière magnifique de Claudel, où Claudel demande à Dieu « Faites que je sois comme un semeur de solitude ». Et Michel Leplay cite dans son intervention Peggy. Peggy qui faisait du silence éternel de la création première ce qui devait aller vers l'homme et ce en quoi l'homme devait se mettre d'une certaine façon à son diapason. Le silence qui se retrouve dans la lune, je recommence, le silence qui se retrouve dans la nuit considérée par Peggy comme une fille au manteau étoilé, et où l'homme retrouve ce grand silence qu'il y avait avant le commencement du règne de l'homme. Alors pourquoi est-ce que je me permets de vous recommander ce livre, et pourquoi il me semble important de le lire, c'est que nous sommes là dans une expérience spirituelle, dans quelque chose qui effectivement est en deçà, au-delà, au-dessus, avant, après, je ne sais pas, enfin, des confessions religieuses, et qui est bien décrite par Etty Elsoum, enfin, cette femme morte dans les camps, et qui a laissé un magnifique journal où elle décrit cette expérience, cette familiarité de plus en plus grande avec Dieu. Et donc Etty Elsoum, citée par Sylvie Germain, qui est préfacière de l'ouvrage, dit « En moi, il y a un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. » La question qui se pose, c'est de quelle confession est ce Dieu au fond du puits ? Peut-on poser même la question de la confession du puits au fond de Dieu ? Il me semble que non. Il y a là un mystère des profondeurs harmonieuses, une exploration de nos sous-sols intérieurs, une attention silencieuse à la parole de Dieu, une manière de retenir son souffle, de tendre l'oreille au plus près de la bouche de Dieu. Et toutes ces attitudes-là méritent notre respect, notre attention, quelle que soit la confession des uns ou la confession des autres. Peut-on demander au puisatier, hein, qui est descendu au fond du puits, peut-on lui demander quelle est sa confession ? Ne peut-on pas ou ne suffit-il pas de reconnaître qu'il est puisatier, qu'il a un bleu de travail couvert de glaise, hein, la glaise que l'on trouve au fond des profondeurs ? Et il me semble que cette compréhension, cette admiration que l'on peut avoir pour ces puisatiers-là, nous suffit. Il y a donc ici, dans ce texte, comme sans doute dans beaucoup de textes ou beaucoup d'approches spirituelles, une même tension, une forme d'humilité, hein, qui unit par la prière et par la méditation à la fois ceux qui sont à l'écoute et cette parole qui parle, qui nous parle, qui se parle à elle-même et qui est entendue sans doute par ces êtres de spiritualité et qui nous permet à nous de quitter la surface des choses, pour rejoindre le champ des profondeurs, ce fameux champ des profondeurs, et pour écouter en nous-mêmes la résonance de ce champ avec notre propre champ personnel, notre propre capacité à pouvoir nous mettre à l'harmonie, au diapason de ce Dieu formateur qui est en nous avant toute création. Merci.